Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 7. Ce sont des... Oui, c'est ça. Ce sont des versets qui ont habité mon cœur pendant toute cette semaine, et puis je voulais partager avec vous ce que le Seigneur a déposé. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici que vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Ils partirent, ils trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et une autre lecture dans quelques chapitres auparavant, Luc 19, au verset 29, où il est écrit, Luc 19, 29, « Et lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers le mont appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Ce n'est pas un hasard que cette parole se trouve à deux reprises et à si peu d'intervalle de temps. Il doit y avoir à peine un peu moins d'une semaine entre les deux événements. Et je suis convaincu que c'est aussi la parole que Dieu a pour nous ce matin. Ils partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Tout se passe avant la fête de Pâques, où Jésus va donner sa vie pour notre salut. C'est le but ultime de sa vie sur la terre. Et la mort de Jésus sur la croix n'était pas un hasard. C'était pas juste une mauvaise fin pour un homme qui n'avait fait que le bien durant toute sa vie, comme cela peut parfois arriver. En fait, la mort de Jésus sur la croix n'était pas non plus la fin de son histoire. C'était vraiment le début de notre salut. La mort de Jésus n'était pas non plus la fin de sa vie. C'était le but de sa vie et le début de nos vies éternelles. La mort de Jésus sur la croix n'était pas le triomphe de Satan, c'était le triomphe de Dieu. Quand les Romains ont cloué Jésus sur la croix et l'ont élevé dans le ciel de la Judée, ce vendredi après-midi, Jésus a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur Satan, il a remporté la victoire sur le mal, sur la mort, la victoire sur l'enfer. Et Jésus a vécu toute sa vie dans l'attente de cette Pâque. Il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est venu mourir sur une croix. Et toute la Bible pointe vers sa mort et tous les événements de sa vie ont conduit à sa mort. Il avait à plusieurs reprises annoncé à ses disciples qu'il mourrait à Jérusalem après avoir été livré aux chefs religieux et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et chaque détail de sa vie s'est déroulé en parfait accord avec la volonté de son Père. Le Père avait conçu le plan, le Saint-Esprit a rendu ce plan possible, et Jésus l'a mis en œuvre. Ne faisant que ce que le Père a voulu qu'il fasse, quand le Père le voulait. Et Jésus suivait un agenda divin très précis. Et tous les détails de sa vie y étaient consignés. C'est d'autant plus évident quand nous observons les événements qui se déroulent dans les heures qui précèdent sa mort. Certains ont dit que les coupables étaient les Juifs, d'autres que c'était Satan, ou encore Judas, le traître, ou alors la foule manipulée par les autorités religieuses, cette foule qui a crié « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Hérode, Ponce Pilate, les soldats romains. Mais Jésus a dit « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne, dit Jésus. Quand Jésus est venu à bout de ses souffrances sur la croix, à un moment donné, il s'est écrié, tout est accompli, voilà, c'est fait, c'est payé, la rançon est payée. Et il est mort de sa propre volonté. Il a rendu son esprit au Père. Ce ne sont pas les clous, ce n'est pas la couronne d'épines, ce n'est aucune de ses souffrances qui a mis un terme à sa vie, c'est Jésus qui a donné sa vie à ce moment-là. Il a mis un terme à sa vie en rendant son esprit au Père. Et les soldats romains qui étaient présents à ce moment-là ont été surpris qu'il soit mort aussitôt. Mais Jésus devait mourir à un jour précis et à une heure précise. Tout était prévu. Même si tous les acteurs de ce drame pensaient agir avec une certaine indépendance, il n'en était rien. Tout était sous le contrôle souverain de Dieu. À plusieurs reprises au cours de son ministère, Jésus a prononcé une parole assez surprenante. Il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Parce que dès le début, en fait, dès le premier jour, dès la première prédication de Jésus, les religieux ont cherché à se débarrasser de lui, à le faire taire, à le faire emprisonner, à le tuer. Mais jamais ils n'ont pu mettre leur projet à exécution. Jamais. Et cette dernière semaine de sa vie, Jésus dit à ses disciples, « Mon heure est venue. » On peut le lire dans le même récit que nous fait Matthieu de cette préparation de la dernière Pâque. Dans Matthieu 10, 26, il dit le premier jour, verset 17, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il leur répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, « Mon heure est proche, mon heure est venue. » Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Mon heure est venue. Non pas seulement dans un sens chronologique, voilà, mais dans un sens historique. Ce pourquoi Jésus est venu sur terre, sa mission. Ma mission va s'accomplir. Et Dieu se met en mouvement. Les chefs religieux se mettent en mouvement. Le diable se met en mouvement. Judas entre en action. Les disciples aussi. Tout se met en branle. Et ils se préparent tous pour la croix afin d'accomplir les desseins de Dieu. Tout se précipite. Mais Dieu est au contrôle. En fait, en surface, à la lecture de ce récit, Dieu est caché. Dieu est invisible, mais c'est lui qui orchestre tout ce qui se passe. Ésaïe 53, verset 10, nous dit une parole terrible en parlant du Messie venu donner sa vie. Il est écrit, l'Éternel a voulu. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. C'est le Père qui est derrière la mort de Jésus. C'est son plan, c'est son but, avec lesquels Jésus est en parfait accord. Dieu a voulu la mort de Jésus, l'innocent. Jésus a volontairement accepté de faire la volonté du Père, en vue de la joie qui lui était réservée, d'offrir le salut à tous ceux, à tous les pécheurs qui accepteraient le sacrifice de sa vie pour eux. Et aussi pour la joie de l'éternité qu'il partagerait avec eux, avec toi, avec moi. Le timing, on peut dire comme ça, de Dieu est parfait. Au début du chapitre 22 de Luc, jusqu'au verset 6, nous sommes le mercredi soir. À partir du verset 7, nous passons à jeudi. Et jeudi est le jour où il faut préparer le repas de la Pâque qui aura lieu ce soir-là. Et vendredi, ce sera la crucifixion. Maintenant, le plan de Dieu est très simple. Le vendredi après-midi, entre 15h et 18h, ce n'est pas n'importe quel moment, entre 15h et 18h, au coucher du soleil, les agneaux de la Pâque seront égorgés. Des dizaines de milliers d'agneaux sont abattus dans une période de temps prescrite par Exode 12, entre les deux soirs. Et c'est dans ce laps de temps, entre 15h et le coucher du soleil, que Jésus va mourir, en accord parfait avec le sacrifice de la Pâque. Car comme le dit Paul, Jésus est notre Pâque. Jésus que Jean-Baptiste avait présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va mourir au moment précis où les agneaux de la Pâque sont égorgés. Mais seul son sacrifice a la puissance de nous accorder le pardon et une vie complètement nouvelle. Au début du chapitre 22, il nous est dit, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de le faire mourir, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres, les chefs des gardes, sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Et Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. L'intention des chefs religieux était de se saisir de Jésus et de le faire exécuter en secret. Sans que personne ne sache, c'était leur plan. Le diable, lui, de son côté, voulait aussi que Jésus soit arrêté. Mais le diable ne veut pas de la mort de Jésus. Vous vous souvenez de ce moment lorsque Jésus dit à ses disciples qu'il faut qu'il meure. Et Pierre lui répond, « Non, Seigneur, que Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus lui dit, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le diable voulait que Jésus soit arrêté parce qu'il voulait une émeute. L'émeute du peuple qui se révolterait contre les chefs religieux. Et Satan chercherait à dissuader Jésus de mourir sur la croix. Et ce sont d'ailleurs les ultimes assauts de l'ennemi contre Jésus. Le détourner de la croix et par là du plan de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Révèle-nous que tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. les chefs religieux, ni le diable ne connaissent l'avenir. Judas, lui, qu'est-ce qu'il voulait ? De l'argent, apparemment. Rien n'indique qu'il se souciait de savoir si Jésus vivrait ou mourrait, quoi. Mais il voulait de l'argent, et il le voulait aussi vite que possible, comme tous ceux qui veulent de l'argent. On ne le laisse pas, c'est la mentalité, on ne laisse pas passer une bonne occasion. Hein. Et le diable profite de cette faille dans le cœur de Judas et s'empare de lui. Et tous les dirigeants juifs se réunissent à la maison de Caïphe. Ils sont là en train de parler de la façon de se débarrasser de ce type Jésus, qu'ils empêchent de tourner en rond, si on peut dire comme ça. Nous devons le tuer pour le bien de la nation, pour conserver notre pouvoir. Qu'allons-nous faire? Ils avaient besoin d'un informateur, d'une taupe. Comment faire? Et là, devinez qui se présente à la réunion? Judas. Dans toute sa splendeur, possédé par Satan, il vient à la réunion et il dit « Combien vous me donnez ?» Et il négocie 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, environ 4 mois de salaire. Et Judas a cherché un moment où Jésus serait isolé, où il serait loin de la foule, et l'occasion allait bientôt se présenter. Alors que jeudi approche, Judas sait que cette nuit-là, ils vont prendre le repas de la Pâque. Là, les 12 ensemble, parce que Jésus a dit à Pierre et à Jean, allez préparer la Pâque. C'est parfait, a dû penser Judas. Car la Pâque aura lieu dans l'intimité, une petite pièce de la maison, une sorte de chambre d'amis pouvant accueillir 13 personnes, les 12 et Jésus. Et comme tout le monde sera en train de préparer ou de fêter la Pâque, il n'y aura personne dans les rues, tout sera tranquille, juste parfait. Le moment idéal pour le livrer, pas de foule, une salle privée, seulement les 12, un lieu bien précis, facile à identifier, facile à trouver pour les soldats du temple. Nickel. Mais Jésus contrecarre son plan. On l'a lu dans les versets 7 à 13. Jésus fait préparer la Pâque dans un endroit que personne ne connaît. Aucun nom n'est donné. Aucun lieu n'est donné. Allez dans la ville et suivez un homme qui porte une cruche. Vous entrerez dans la maison d'un homme dont le nom n'est pas donné. Ne dites pas qui vous êtes. Juste que le maître, l'enseignant, veut réserver ce lieu. Honnêtement, il devait y avoir une foule de rabbins à Jérusalem ce jour-là. Une foule d'enseignants. L'enseignant veut réserver ce lieu. Et le proprio de la maison, on ne sait même pas son nom. Et l'homme à la cruche, aussi anonyme que l'autre. Et ils vous montreront, j'aime en grec c'est intéressant, cette méga chambre haute. C'est pas une petite pièce, une piole, c'est pas un petit salon, c'est pas une petite salle à manger, c'est une méga chambre haute. C'est la seule fois où il est parlé de la chambre haute dans le Nouveau Testament. Et c'est là que nous prenons notre repas. Si notre Seigneur avait dit, allez vers un tel, et il vous emmènera vers tel propriétaire de la maison qui est dans telle rue, Judas aurait entendu Jésus, et son plan aurait pu se mettre en marche. Jésus aurait pu être arrêté avant d'instaurer la Sainte Cène, avant d'avoir pu enseigner à ses disciples tout ce qu'il leur avait enseigné durant cette nuit. C'est juste extraordinaire ce contenu qui est contenu dans ce passage merveilleux de Jean 13 à 16, avec la promesse de la venue et du ministère du Saint-Esprit. Sans parler de la prière de Jésus pour nous en Jean 17, tout cela n'a pas pu avoir lieu. Mais Jésus ne pouvait pas être arrêté avant que tout cela se passe. D'où la mission secrète confiée à Pierre et Jean. Judas ne peut rien dire aux chefs religieux, rien. Il ne sait pas où ils vont passer le repas de Pâques. Rien dans les Écritures ne permet d'indiquer non plus que Pierre et Jean soient revenus après être partis préparer la Pâque. Ils sont partis tôt, le jeudi, ils ont passé la journée à préparer le repas, c'est comme une sacrée préparation. Personne ne savait où ils se trouvaient jusqu'à ce que Jésus et les autres y viennent. Judas était coincé. Et ce n'est que lorsque tout aura été prêt que Jésus se rendra, à ce moment-là, au Mont des Oliviers, sera arrêté, c'est un lieu semi-public, on va dire comme ça, et ne pourra être jugé que le lendemain, pour être exécuté à l'heure même où tous les agneaux de la Pâque sont abattus, et pas avant. Dieu dirige tout dans le moindre détail. Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? C'est une bonne question. Pierre et Jean ne sont au courant d'aucune des manigances de Judas. Personne ne sait. Personne ne sait. Bon, les religieux, on se doute bien qu'ils ont une dent contre Jésus, mais personne ne connaît leur plan avec Judas. Ils ne savent pas non plus, Pierre et Jean ne savent pas non plus que ce que Jésus a prévu de faire. D'ordinaire, Jésus est plutôt bien organisé. Il a sûrement dû prévoir un lieu pour la Pâque, puisque nous sommes venus à Jérusalem pour ça. D'autant qu'avec les milliers de pèlerins venus à Jérusalem au même moment, il n'y avait sûrement plus rien de libre. Comment pourrait-il s'y prendre au dernier moment? C'est pas possible. Jésus a sûrement prévu quelque chose. Il n'a rien oublié. Il veut juste garder le lieu secret. Tout est prêt. On a l'impression d'être en pleine mission d'agent secret. Quand vous arriverez en ville, il y aura un homme avec une cruche. Vous le reconnaîtrez, vous le suivrez. Un peu comme s'il leur avait dit, vous irez à la gare, et là, devant le buffet de la gare, vous verrez un homme avec un imperméable, des lunettes de soleil, un journal à la main, il rentrera dans un taxi, vous le suivrez. Même genre de situation. On peut penser, comme pour l'histoire de l'âne, on a lu auparavant, qu'il s'agit d'une révélation miraculeuse, une direction surnaturelle. Peut-être. Peut-être pas. Personnellement, je crois que Jésus avait déjà tout organisé. J'ai lu plusieurs commentateurs qui pensent que cet homme à la cruche faisait partie de la communauté des Esséniens, qui vivaient célibataires, qui devait donc accomplir les tâches qui étaient habituellement dévolues aux femmes. Et que cette méga chambre haute, meublée, était libre, car les Esséniens n'avaient pas le même calendrier que les religieux du temple. Ils les considéraient comme des corrompus, comme des collabos, des Romains. Donc, Jésus, comme Jean-Baptiste, aurait d'ailleurs évolué au sein de cette communauté essénienne. Jésus y aurait été connu comme l'enseignant. Tout ça, c'est intéressant. Mais que ce soit de manière surnaturelle ou pas, en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est que Jésus connaît toutes choses. Il savait aussi que Judas était en train de le trahir. Nous sommes le jeudi, et la Pâque sera fêtée le lendemain, le vendredi. Alors comment Jésus peut-il fêter la Pâque un jour avant avec ses disciples? Ça m'a posé une question aussi. Je me suis arrêté là-dessus. C'était comme un os, c'était comme une arête. Qu'est-ce qui se passe? Le récit ne donne pas l'explication. Alors il faut. J'aime beaucoup étudier. Alors j'ai cherché et on trouve dans les textes de Flavius Josèphe, historien du 1er siècle, puis aussi dans un recueil, la Mishnah, qui est la codification des lois juives, on trouve une réponse. Jésus va manger la Pâque jeudi soir et va être crucifié vendredi. Si Jésus mange la Pâque avec ses disciples jeudi soir et que les agneaux sont égorgés le vendredi, comment il va faire pour faire égorger son agneau le jeudi? Peut-il y avoir une Pâque le jeudi soir et une autre le vendredi? Il se trouve que les Juifs du Nord et les Juifs du Sud, les Galiléens, par opposition aux gens de la Judée, avaient différentes façons de calculer leurs jours. Dans le nord, chez les Galiléens, plus proche de la culture grecque, ils calculaient le nombre de jours comme nous, du lever du soleil jusqu'au lever du soleil. Un peu comme ça. Alors que dans le sud, ils calculaient le jour du soleil, à partir du coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil. En Galilée, où Jésus et tous les disciples, sauf Judas, avaient grandi, ils calculaient le nombre de jours à partir du lever du soleil. Donc le 14e jour du mois de Nissan, la date de la Pâque, commençait donc pour eux le jeudi matin, et non pas le jeudi soir. Donc ça met la Pâque jeudi soir. Et pour les Juifs du Sud, c'était au coucher du soleil. Et donc le repas de la Pâque aura lieu le vendredi. Les pharisiens avaient tendance à adopter l'approche du Nord, les sadducéens celle du Sud. Et puis, voilà, il y a une sorte de consensus qui s'est fait. C'était pas des Suisses, mais enfin, ils se sont quand même mis d'accord pour trouver un bon compromis. Donc, on divisait le nombre d'animaux à tuer en deux périodes différentes, jeudi soir et vendredi soir. Ainsi, Jésus célèbre une Pâque galiléenne le jeudi soir. Le timing est parfait. Le Seigneur peut célébrer la Pâque avec ses disciples le jeudi soir, et c'est une vraie Pâque. Les agneaux ont été gorgés, et peut encore mourir lors de la Pâque la nuit suivante, car il y a deux fois où l'agneau de la Pâque est égorgé dans le temple. La façon dont Dieu ordonne chaque détail, pour moi, c'est toujours une source d'étonnement, d'émerveillement. Le laps de temps pendant lequel Jésus devait être crucifié n'était que de 3 heures. C'est vraiment très serré comme timing. Il est arrêté au milieu de la nuit. Il est jugé dans la foulée. Et tout va très vite. Même si les Juifs ne veulent pas le tuer dans l'immédiat, ses réponses les exaspèrent, les poussent à bout, les contrarient tellement qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de demander sa mort imminente, immédiate. Et il mourra littéralement à 3 heures le vendredi après-midi et sera mis au tombeau avant la fin de la journée, car il doit rester 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Tout est sous contrôle divin. Quand il est mort, c'était vendredi 15 heures. Un moment terrible où les ténèbres ont littéralement couvert la terre. La nuit s'est abattue sur la terre. Dieu a éteint toutes les lumières. L'obscurité la plus totale, comme en pleine nuit, sans lune. Pendant 3 heures, c'est la confusion. Même les sacrificateurs sont perturbés au moment d'égorger les agneaux pascals. Puis, toute la ville de Jérusalem est frappée par un tremblement de terre d'envergure. Des tombes s'ouvrent, les gens en sortent. Ils se retrouvent près du temple. Là, le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint est déchiré de haut en bas. Et tout cela à l'heure même où Jésus donne sa vie pour notre salut. Pourquoi je vous partage tout ça? Pas seulement parce que c'est intéressant et puis que j'ai pris mon pied à lire et à étudier tout ça. La parole qui a retenu mon attention dans tout ce contexte, c'est celle qui revient à 2 reprises. Ils partirent et ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Et c'est exactement avec la même précision ce que Dieu veut te donner de vivre. Tu n'as pas à être le jouet des circonstances. Tu n'as pas à être ballotté au gré des vagues, des événements qui surgissent dans ta vie ou autour de toi. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Comme il y en avait un pour Jésus. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, c'est pas seulement t'assurer une place au paradis, une place au ciel. Ouf, on l'a échappé belle. C'est pas simplement avoir une qualité de vie un peu meilleure. C'est pas seulement pour te débarrasser de plein de problèmes qui t'empoisonnaient l'existence. Le jour où tu deviens un enfant de Dieu, tu reçois une vie nouvelle. C'est la vie de Jésus, la vie par le Saint-Esprit. C'est une vie éternelle, c'est la vie même de Jésus. Et une des qualités de cette vie-là, c'est qu'elle a un sens, elle a une destinée. Elle est marquée par... il y a une marque de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Alors que nous vivions loin de Dieu, perdus dans ce monde, alors que nous vivions sans Dieu, notre vie avait perdu son sens, notre vie avait perdu le... Nous étions déconnectés complètement du projet et du plan de Dieu pour nos vies. Mais Dieu a un projet. Et ce projet est tellement précis, aussi minutieux, aussi détaillé, avec un timing aussi parfait que pour la vie de Jésus. Quel que soit ton âge, que tu sois chrétien de longue date ou pas, Dieu veut parler sur ta vie. Il veut te conduire de manière précise. Il veut te faire connaître son timing parfait. Jusqu'à la fin. Pour Jésus, ça a été jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier souffle rendu à la croix. Et pour nous, c'est pareil. Jusqu'à la fin de notre vie, Dieu veut nous faire connaître son timing, son plan, son agenda pour nos vies. Il n'y a pas un moment où la retraite s'installe. Il n'y a pas un moment donné où on peut se dire, c'est bon maintenant, je crois que j'ai assez roulé ma bosse avec le Seigneur, voilà, Seigneur, on va se reposer, on va attendre l'éternité. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est parce que Dieu veut. Dieu veut te donner une direction claire au sein de ce monde des ténèbres. Là, c'est pas l'astrologie. L'astrologie, c'est pas toutes sortes de sciences ésotériques qui peuvent aider qui que ce soit. Mais on ne parle non plus à avancer à tâtons. On va essayer, on verra bien. Peut-être que... Non, la Bible nous parle de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est pas tes idées, c'est pas ton opinion, c'est pas tes bonnes pensées, c'est pas tes désirs, c'est pas... Non. Mais elle nous parle de ce que Dieu a préparé pour ceux qui aiment Dieu. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Dieu le révèle par son Esprit. Jésus était conduit par l'Esprit, rempli, revêtu de puissance par l'Esprit, conduit par l'Esprit. C'est pour cela, et c'est comme cela, qu'il a pu pleinement accomplir le dessein et le projet de Dieu pour sa vie. Et c'est de la même manière que nous pouvons nous aussi, remplis, revêtus de puissance et conduits par l'Esprit, que nous pouvons entrer dans tous les projets de Dieu pour nos vies. Dieu veut te faire connaître ses pensées. C'est pas juste extraordinaire ça. Non seulement je ne suis pas né par hasard, pas seulement parce que papa et maman s'aimaient bien et puis que voilà, ah, oh, le joli bébé. Mais je suis pas né seulement par hasard. Je suis pas né en France et puis j'ai pas grandi en Suisse par hasard. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, à un moment donné, te dit, il t'ouvre sa présence, il t'ouvre, il te donne sa vie, il te donne son esprit dans un but bien précis. Te faire connaître sa pensée. Te faire connaître ses projets. Te faire connaître ses visions, te faire connaître ses rêves, te faire connaître ses directives, sa direction pour ta vie, pour ton service. Et il ajoute, Paul ajoute, que ce sont des bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Pas seulement une grâce qui me sauve, mais une grâce qui me donne d'entrer pleinement dans tout ce que Dieu a préparé. Une œuvre préparée d'avance. Comment cela est-il possible? La première chose à faire, une fois que tu es... La première chose à faire, d'abord, c'est de recevoir Jésus dans son cœur. de recevoir le pardon de ses péchés, d'abandonner toute sa vie entre les mains de Dieu, de recevoir cette vie nouvelle qu'il a pour toi, car lui seul est ton sauveur. Mais après, il te faut te mettre en mode, on va dire comme ça, en mode écoute. De lui dire, de lui redire, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Montre-moi le chemin. Guide-moi. Conduis-moi par ton esprit. Ça, c'est la première chose à faire. Et après, surtout, d'écouter, de recevoir sa parole pour toi. Combien ça arrive souvent, hein, moi le premier, ça m'est arrivé aussi, on prie, on demande des choses à Dieu, et puis on n'attend pas. On passe à la prière suivante, à la demande suivante. Alors que le Seigneur m'a dit, attends, j'aimerais pouvoir te répondre. J'aimerais pouvoir te parler. La manière que le Seigneur utilisera pour te communiquer sa pensée, ses rêves, sa vision, ses songes, voilà, ça importe peu la manière. Mais quand Dieu parle, tu le sais. Et puis la chose suivante à faire, une fois que tu t'es mis en mode écoute, si tu as reçu ce que Dieu voulait, c'est simple, c'est d'obéir. Les disciples partirent. Ils se sont mis en marche. Ils se sont mis en mouvement. S'ils ne l'avaient pas fait, jamais, jamais, ils n'auraient vu l'accomplissement du projet de Dieu dans leur vie et au travers de leur vie. Jamais ils n'auraient vu cet homme à la crue. Jamais ils n'auraient vu cet anon attaché à l'entrée du village. Jamais. Partez. Allez. Go. Ah, comme les gens qu'on balance depuis les avions, c'est go, go, go. Il faut y aller. Il faut se mettre en mouvement. Il y a un risque à prendre. Il y a un frère qui m'a encouragé cette semaine. Il m'a dit, il y a une parole de Dieu. Qu'on s'est tellement habitué à entendre ou à lire d'une certaine manière qu'on se rend même plus compte ce que ça signifie. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ça nous passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il dit, j'aimerais proposer une autre traduction. Ça n'a rien de très théologique dans le sens traduction du grec, ancien, en français, ça n'a rien à voir. Il dit, mais le sens, c'est ça qui compte. Il dit, si tu ne prends pas de risque, ben Dieu ne prend pas plaisir en toi. La foi, c'est de prendre un risque. Le risque de l'obéissance. Le risque de se jeter à l'eau. Le risque d'aller vers l'inconnu, comme Abraham. Je pars, on verra bien, je ne sais pas où je vais, mais j'obéis. Je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas quelles sont toutes les conséquences, mais Dieu le sait. Et puis je crois qu'il me montrera à chaque étape ce qui compte, ce qui est important pour moi, de savoir, afin que je puisse continuer à vivre dans l'obéissance de la foi. Alors, tu feras comme eux, comme les disciples. Si tu pars, si tu te mets en mouvement, si tu écoutes, si tu te mets en mouvement, si tu obéis, tu feras comme l'expérience de tout trouver, comme Jésus te l'a dit. Comme Jésus te l'a dit. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Dieu, en nous sauvant, a un but pour chacune de nos vies. Il a un projet pour chacune de nos vies, une mission à accomplir pour chacune de nos vies, et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Quel que soit notre âge. J'avais un ami pasteur brésilien, qui disait, celui qui a une promesse ne meurt jamais. Celui qui a une promesse de Dieu ne meurt jamais. Si tu as un appel de Dieu clair, précis dans ta vie, une direction précise, Dieu te montre une mission, quelque chose à accomplir de sa part, un projet à mener à terme, T'es invulnérable.
Tu crois?
Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli la mission que Dieu t'a confiée. Le jour viendra, ou l'heure viendra, où nous pourrons rejoindre notre Seigneur. Mais avec, dans notre cœur, et avec le... Moi, je me réjouis simplement de pouvoir lui dire, Seigneur Jésus, mission accomplie. Mission accomplie. Et il nous dira, il te dira, c'est bien un bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Mission accomplie. Alors, cette parole, elle contient un appel. C'est pas seulement une bonne information. C'est un appel. Peut-être à revenir à ce... Les choses de la vie nous encombrent. Il y a toutes sortes de soucis qui peuvent nous assaillir. Les finances, la santé, la famille, toutes sortes de trucs comme ça qui viennent et qui peuvent étouffer la parole de révélation de Dieu pour le projet de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies. Et peut-être que tu es dans cette situation où il y a eu tellement de choses qui te sont tombées dessus, tu peux en venir à oublier l'essentiel. Seigneur, quelle est ta mission pour moi? Je vais m'y tenir. Je vais garder le cap, garder la bonne direction. Alors il y a un appel dans cette parole, c'est celui de se mettre en mode écoute. Et Seigneur, parle-moi tout à nouveau. Viens par ton Saint-Esprit, renouvelle en moi cette ordre de mission, fais-moi connaître, peut-être tu as peut-être jamais entendu, alors je veux l'entendre Seigneur, je veux l'entendre, et prêt de lui dire aussi Seigneur, mais je veux pas seulement être mis au courant, je veux vraiment aussi t'obéir et me mettre en mouvement, je veux aussi, j'accepte de prendre les risques qu'il y aura à prendre à ce moment-là, quel qu'il soit. Ça, c'est l'appel de Dieu sur ta vie ce matin. Alors, je vous invite à prier avec moi, à fermer vos yeux, nous allons prier. On ferme nos yeux pour pas penser à autre chose, mais Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Et Seigneur, je te loue, je te bénis, parce qu'en menant à terme, à bien ta mission, celle de nous sauver, tu as tout fait dans la perfection du Père. Ton œuvre est parfaite. Dans le moindre détail, dans le timing, tu as tout accompli, Seigneur Jésus, à la perfection. Tu es le maître du temps et des circonstances. Seigneur, rien ne t'a échappé. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu nous as donnée, ton salut, pour ton Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Je te prie maintenant que tu touches mes frères et sœurs, que tu nous touches tous ensemble, que nous puissions pleinement entrer dans tes projets, dans tes plans, dans la mission que tu nous as confiée aux uns et aux autres, en tant que corps, mais aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Saint-Esprit, viens, je te prie, je te demande un esprit de révélation, Seigneur, un esprit de connaissance, un esprit de sagesse, que tu puisses venir ouvrir nos yeux, ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions contempler tes merveilles, contempler ta parole, contempler, Seigneur, tes projets. Seigneur Jésus, que ton conseil divin nous soit accordé. Et maintenant, toi qui es là, dans ton cœur, dis au Seigneur, Seigneur, je veux. Je veux entendre ta voix, tout à nouveau. Je veux revenir à ce projet que toi tu as pour ma vie. Et sur toi, tout ce qui m'a accablé, tout ce qui m'a ralenti dans la marche, tout ce qui occupe mes pensées au quotidien, Seigneur, je te remets cela maintenant. Je t'abandonne tout cela en tes mains, comme je t'abandonne tout à nouveau ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Me voici. Envoie-moi. Me voici, Jésus. Envoie-moi. Alléluia. Kola baba khamana de kele da da rusha da da disaya. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Ça risque d'être surprenant pour certains. On s'habitue à notre petit train-train de vie confortable, notre petite vie pépère. Ou alors, voilà, pour certains, la vie est quand même plutôt, voilà, il semble que ce soit comme sur des rails. Et puis, si on va te faire sortir de ces rails pour aller sur les siens, que le Seigneur te bénisse, vous réjouisse les uns les autres.